Nous allons lire un texte dans l'évangile de Luc qui n'est pas, peut-être pas enthousiasmant comme cela, comme d'autres textes pourraient avoir, parce que, voilà, il parle de quelque chose que ben on n'a pas toujours envie d'entendre, mais vous allez voir que quand même, avec ça, on pourra méditer sa parole, on pourra voir que ben, finalement, notre vie, elle a un but. Et je vous propose donc la lecture donc dans Luc 13, versets 22 à 30. Jésus passait ainsi à travers ville et village, il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la sortie et la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez ». Alors vous direz « Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans les rues. » Il vous répondra « Je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. » Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Alors le jugement semble sévère. Comment on peut prendre ce texte? C'est difficile d'accepter que qu'on peut ne pas être reconnu par le Seigneur quand même. Est-ce que je suis comme ces hommes que Jésus y décrit? Est-ce que je peux perdre mon salut en Christ? J'arrive pas à croire que Dieu, il ne pourrait pas me reconnaître. Je suis quand même cette personne qui est proche de lui, qui est à table avec lui. C'est ce que nous venons de faire avec la Sainte Cène. Comment est-ce possible? Un jugement si sévère. Comment faut-il que nous interprétions ce texte? Là, on peut se rappeler des psaumes qui parlent aussi du jugement, qui parlent aussi des jugements, donc, mais qui ont des paroles sévères envers les ennemis. Pourtant, Jésus aussi, il parle d'aimer nos ennemis. Alors pourquoi tant de violence dans le jugement? Quand Jésus parle d'aimer nos ennemis, il parle du prochain. Quand Jésus parle du jugement, il parle à nous, à nous-mêmes. Il vise nous-mêmes, il ne parle pas de notre prochain. Il enseigne en fait les conséquences désastreuses, justement, de ne pas nous préoccuper de notre prochain. Et on voit dans ce texte, si on lit avant, face à tous les enseignements qu'il a déjà faits avant, des personnes commencent à s'inquiéter. Ils se disent, mais y aura-t-il si peu de personnes qui vont être sauvées? Et Jésus, là, ne le cache pas. Effectivement. Jésus parle d'une porte étroite dans laquelle il faut entrer. Alors, dans la vie, je ne sais pas vous, mais en général, on ne s'aventure pas trop dans des chemins étroits. On préfère aller dans des chemins larges, c'est logique, n'est-ce pas? Alors, l'idée de Jésus n'est pas du tout de rendre les choses compliquées, mais c'est plutôt d'avertir que, bien souvent, le meilleur choix n'est pas forcément simple à apprendre. Alors ce chemin étroit tel qu'il est, il est difficile, mais il n'est pas impossible. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un verset qui parle que il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau dans le trou d'une aiguille. Effectivement, si on voit une aiguille, même une aiguille de chirurgien, c'est un peu difficile pour un chameau de rentrer dedans. Là, on n'est pas dans un verset comme cela où, finalement, dans un défi qui serait impossible à faire, impossible à relever. Si on sait qu'effectivement un chameau ne passe pas dans un trou d'aiguille, on peut par contre relever que dans ce passage, on parle d'une porte étroite, mais qui est possible de passer. Et puis, il y a cet ordre de Jésus qui nous montre encore plus que c'est possible parce qu'il nous parle de efforcez-vous. Ce qui nous montre non seulement que c'est possible, mais également que nous avons une grande part à faire nous-mêmes. Alors, avec l'histoire du chameau qui passe dans l'aiguille, on comprend que ça ne peut pas être nous qui faisons ça. Ça ne peut être que le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu d'être riche et d'hériter du royaume des cieux. Alors la richesse étant l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu, il faut relever que ces deux choses sont en confrontation, Dieu et l'argent. On ne peut pas aimer deux maîtres, l'argent et Dieu en même temps. C'est ça le message par rapport à ce verset, par rapport au chameau. Alors, il s'agit d'une porte étroite, mais pas fermée. Pourtant, il semble difficile d'y entrer. On n'y rentre pas d'un simple geste, puisque au verset 24, il est dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils ne trouveront pas l'entrée parce qu'il y a tout simplement besoin d'être orienté vers cette porte, vers cette entrée qui n'est pas si facile d'accès. Finalement, on voit que les personnes sont perdues dans tout l'espace qui les entoure. Ils ne trouvent pas cette fichue porte. Et je vous propose une image, voilà, que j'ai trouvée comme cela. Par exemple, quand on tape sur un ballon de football, eh bien, on tape sur le ballon, il peut partir partout. Surtout que quand on n'est pas un bon footballeur, ben on cherche pas forcément à viser, on tape, le ballon, il peut partir là, là. Partout. Mais à partir du moment qu'on a un objectif, qu'on a un but, qu'on a une cage pour faire rentrer le ballon, nous avons déjà un effort à fournir pour que le ballon rentre dedans. Et là, il ne s'agit plus simplement de taper sur le ballon, comme toute personne sait le faire, même un petit enfant de 1 ou 2 ans. Il y a cette porte étroite, ce but, cette cage, où, dans lequel il est difficile de faire rentrer le ballon, et surtout quand il y a des adversaires qui sont devant. Pour continuer cette analogie, cet espace où on peut tirer sur la balle, je le vois comme cette liberté que nous avons, toute cette liberté que nous avons. On peut taper le ballon comme on veut, on sait qu'il va bouger. Mais il peut aller n'importe où. Dieu nous a créés libres, nous a créés entièrement libres dans tout cet espace, dans toute cette terre. Mais il nous a créés également intelligents. Alors qu'est-ce que veut dire cette liberté et en même temps cette intelligence que Dieu nous a pourvue? Si nous n'avons pas d'intelligence, eh ben on tape sur le ballon et puis le hasard, ou plutôt toutes les infinités de possibilités qu'ils peuvent avoir de direction sont possibles. Si on vise un but, il y a plus de chances que le ballon aille dans la bonne direction. Mais pour que le ballon rentre effectivement dans la cage, il faudra quand même un peu plus d'effort. Il faudra pouvoir s'entraîner. Mais malgré cet entraînement, comme si vous regardez des matchs de foot, vous voyez que finalement, c'est pas si évident, même en ayant fait des entraînements de 10 heures par jour ou de je sais pas combien Neymar, par exemple, fait d'entraînement. Rien n'est sûr. Qu'est-ce que cela veut dire ? On a Dieu qui nous demande de faire un effort et en même temps, on sait que ce n'est pas par nos propres forces que nous allons réussir à rentrer dans cette porte étroite. Si en progressant et en ayant bien en vue le but, nous ne sommes jamais sûrs de réussir. Alors là, par contre, je parle du football. Dans la vie, c'est différent. Dieu nous permet de rentrer dans son royaume. Dieu fait rentrer le ballon dans la cage. Mais ce n'est pas en nous cachant les yeux et en tournant le dos au but qu'il fait cela. Dieu cherche à faire équipe, on peut dire, pour prendre vraiment l'analogie jusqu'au bout, avec nous. Dieu est un être relationnel. Il œuvre avec nous. Quelque part, il travaille en équipe avec nous. Et en cela, nous pouvons observer souvent deux visions différentes que les chrétiens peuvent avoir parfois. Ceux qui disent, des chrétiens qui disent, mais que tout est grâce. Et c'est un peu cette question qu'on va voir. Deux bords, finalement, qu'on entend parfois chez les chrétiens, que ben, tout est grâce. C'est-à-dire que tout est donné, qu'on n'a rien à faire pour être sauvé. On a juste à croire. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix d'être chrétien, eh bien voilà, nous sommes sauvés. Et on a une deuxième catégorie, peut-être de chrétiens, de personnes, qui pensent que il faut le gagner, ce salut, en pratiquant des bonnes œuvres. Parce que sinon, comment séparer les hommes justes des hommes mauvais? C'est logique, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Est-ce qu'on a besoin de gagner notre salut? Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour que nous, on soit sauvés? Vous voyez, c'est toujours la même question, là. Si en tant qu'évangélique, chrétien évangélique, nous mettons un accent particulier sur la grâce de Dieu, le fait que Jésus a donné sa vie pour nous, nous négligeons non plus, enfin, on néglige pas non plus que la vie doit être en conformité aussi avec sa parole. Qu'on doit quelque part faire des efforts aussi. Mais qu'en est-il réellement dans notre vie? Soit on se sent coupable et on joue quelque part un peu l'hypocrite en montrant qu'on est un bon chrétien. On va à l'église tous les dimanches, voilà, on fait toutes les réunions. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas ça. Ou alors, on a une autre catégorie encore de chrétiens qui ne se cachent pas, ils mettent carte sur table et finalement, ils justifient tous les actes qui sont pas très bons en mettant en avant, mais bon, c'est là, de toute façon, il y a la grâce de Dieu. Et en disant, de toute façon, si quelqu'un me dit quelque chose, me reproche quelque chose, je quitterai l'église, et voilà. Alors, pour que cette personne reste dans cette église, les gens autour se disent, bah, on va l'accepter en se disant, mais au moins il va à l'église. Alors, il faut qu'on garde au moins cela, il faut qu'on va essayer de pas trop le gêner. C'est vrai qu'il n'a pas une vie tout à fait top, mais voilà, on veut pas le froisser. Dans ce passage, vous voyez, de Luc 13, Jésus nous met face à une réalité. La réalité est, on rentre par cette porte étroite, à temps, ou on n'y rentre pas. Il n'y a pas d'autre porte, pas d'autre solution. Il n'y a qu'une seule solution. Le moment venu où le choix sera scellé, où on ne pourra plus faire marche arrière, la question ne se posera plus de la même manière. On ne pourra plus dire, bon, je vais négocier un petit peu, ça devrait passer. Pour ceux qui pensent que la grâce, le don de Dieu, c'est bon marché. Ou pour l'autre catégorie des chrétiens, peut-être, qui pensent que j'ai fait tellement de bonnes choses dans ma vie, la récompense, je la mérite vraiment. Vous savez, je pense que nous sommes tous un peu dans ces deux catégories. J'ai bien dit nous, alors je me mets dedans également. Nous avons ce ballon posé devant nous, et nous avons soit le choix de tirer vers le but qu'on voit, mais on ne s'est pas apprêté à cet exercice, on n'a pas fait vraiment l'entraînement. C'est un chrétien qui croit en Dieu dans sa vie, qui participe au repas du Seigneur, qui dit amen aux enseignements, aux prédications, mais qui ne vit que le dimanche quelque part avec Christ. Alors oui, c'est quelqu'un, un fervent, on peut dire louangeur, je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui aime la louange, c'est quelqu'un qui pète la joie le dimanche. Mais dans sa vie, qu'en est-il réellement? Puis cette deuxième catégorie, on ne fait pas attention au but qui nous est fixé. On veut profiter de tout l'espace qui nous est donné. On veut profiter de la vie. Est-ce que tu crois en Dieu? Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai, vous êtes coincés, vous les chrétiens, on ne peut jamais faire quoi que ce soit. Non, j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Vous voyez, on a ces deux personnalités qu'on peut croiser des fois, et comme je dis, parfois on est un peu des deux. Et c'est ce que Jésus dénonce dans notre texte. Et moi, je vous propose une troisième catégorie. Là, il me semble que c'est le chrétien qu'on est appelé à être. C'est-à-dire qu'on s'est entraîné. On tire le ballon vers le but, et c'est Dieu qui permet à ce que ce ballon rentre, qui corrige les imperfections humaines. Et c'est ce qui me semble que Dieu nous appelle à être. Alors peut-être que vous vous dites, mais pourquoi faire tant d'efforts si c'est Dieu qui, de toute façon, fait rentrer ou sortir qui il veut de son plan? Comme je l'ai déjà dit, Dieu est relationnel. Il forme une équipe, il forme un peuple. La personne peut faire les œuvres les plus incroyables qu'on peut imaginer. Mais vous savez, dans le football aussi, on ne gagne pas tout seul. Il y a 11 adversaires en face de nous. Impossible d'être tout seul face à ces 11 adversaires. Eh bien là, c'est quelque part un peu pareil. On peut faire toutes les œuvres incroyables qu'on peut imaginer. Mais si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13. Dieu est relationnel. Dieu, c'est par son amour qu'il agit. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je peux faire ne sert à rien. Et c'est ce que Jésus dénonce aussi dans le texte. Dieu travaille avec nous pour une bonne cohésion. Cette vie sur terre est difficile parce que le moment de l'entraînement avant le fameux match pour lequel nous savons que nous allons gagner, parce que Dieu nous l'a promis et on croit en sa promesse. La question est de savoir, est-ce que tu auras pratiqué les entraînements que Dieu propose pour faire partie de cette équipe de gagnants? Alors le but de la prédication n'est pas de mettre en doute si on est sauvé ou pas, mais plutôt de nous mettre en garde contre des hallucinations, peut-être que on fait bien trop souvent, à savoir que on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour servir la gloire de Dieu. Verset 24, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Faites tous vos efforts pour entrer. Dieu nous demande de tout faire. Alors oui, c'est vrai, on est loin du but qu'on aime bien se fixer, qui est de tout faire pour être dans le meilleur de nos conforts, pour pouvoir enfin nous poser, nous reposer. Alors être dans le confort n'est pas un problème en soi. Ça peut même faire partie des objectifs. Avoir le projet d'acheter une maison, par exemple, peut être tout à fait honorable, mais toujours en se posant la question, quel est le but profond? Pourquoi, lequel je le fais? Est-ce que cette stabilité que je recherche va me permettre aussi de pouvoir mieux le servir pour les projets de Dieu? On constate donc qu'on n'est pas très bon dans la gestion du temps. On cherche d'abord notre propre confort et après, quand on trouve le temps, qu'on n'a presque jamais finalement, on veut bien le servir. On veut bien servir Dieu. Mais on peut chercher une bonne stabilité dans notre vie, tout en servant notre Seigneur. Alors peut-être qu'il y aura des sacrifices qu'on va devoir faire. Mais il y aura d'autres bénédictions que peut-être vous étiez à mille lieues d'imaginer. Au verset 25, dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. On n'est pas des bons gestionnaires du temps parce que trop souvent on est en retard. On ne fixe pas les bonnes priorités. On entend souvent dire qu'on a une seule vie et qu'il faut en profiter. Alors qu'en vrai, le très bon temps, ça, cette terre de repos qui nous est promise. Mais ça ne veut pas dire que, ici sur terre, nous n'aurons pas du bon temps. Mais ça veut dire plutôt que ça ne doit pas être notre priorité première. La vie pour Dieu est prioritaire. Dès qu'on a compris cela, Dieu nous donne une vraie joie de vivre. On sait prendre du bon temps. Et au verset 26, je le relis, « Alors vous direz, nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez, allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » En France, on aime bien manger. On aime bien passer du bon temps à travers un repas. Et je vous rassure, Jésus aussi aimait passer du bon temps autour d'un repas. Mais la différence, c'est que Jésus ne faisait pas que passer du bon temps. Pour lui, la mission est prioritaire. Moi, je suis content de voir quand un culte le dimanche, c'est la fête, on est joyeux. On sent la présence de Dieu, mais ça ne fait pas toute la vie. Parce qu'il y a des gens tout autour de nous qui demain, dans un an, dans 70 ans, vont mourir. Et on ne peut pas accepter cela. Nous sommes des témoins essentiels pour Dieu, des ambassadeurs de sa parole. Oui, ce repas, on était à côté de lui. Nous étions à table avec lui. La proximité physique avec Jésus ne suffit pas. C'est toute la vie qui doit humer la présence de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas tout le temps nous amuser, chanter pour Dieu. Parce que nous avons reçu ce Saint-Esprit tous les jours de notre vie. ce Dieu est venu dans notre vie, et pas simplement le dimanche. Au verset 27, il est dit « Je ne sais pas d'où vous venez, allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » Parce qu'en fait, si on fait le service minimum, aller dans les différentes réunions d'église, sans se soucier ce qu'on fait en dehors de durant notre semaine, eh bien, quelque part, c'est le mal que nous commettons. Puisque nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir tout au long de notre vie. Alors, pour conclure, que pouvons-nous dire par rapport au jugement dernier? Premièrement, et je pense que c'est quelque chose d'important à dire, c'est que le jugement dernier n'est pas le seul message central de Jésus. Mais il fait partie du message. Quand Jésus parle du repos en lui, il a en vue de ce futur de après cette vie sur terre. Mais Jésus console, guérit les peines. Il nous invite à rentrer dans sa demeure, qui a juste une règle finalement, c'est de lui faire plaisir. Mais il se trouve que cette porte est étroite, malgré cette petite règle qui nous est demandée, et cela parce que le péché gangrène dans ce monde. Mais il y a cette phrase aussi qui dit « Venez à moi ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce passage paraît extrêmement fataliste, mais pourtant, on n'est pas encore dans ce jugement. Il est temps encore de se mettre à l'œuvre pour le Christ. Il ne s'agit pas d'être dans cette culpabilité écrasante, mais plutôt de se rappeler ou alors de s'instruire que oui, nous avons vraiment un rôle sur cette terre. Que Dieu s'attend à ce que nous soyons dans le combat de tous les jours pour son royaume. Ne vous écrasez pas dans la culpabilité, mais voyez le présent, voyez le futur, tout ce que Dieu va accomplir comme mission à travers vous. L'Église est là, avec ses frères et sœurs, pour nous soutenir tous dans cette belle mission de faire rayonner l'Évangile dans le monde. Alors, cette question que j'ai posée au début, est-ce que nous pouvons perdre le salut en Christ? Bien non, aujourd'hui on ne peut pas, puisqu'on est encore dans les temps. Est-ce que je suis cet homme qui se trouve avoir mangé avec Jésus, super proche de lui, à entendre les enseignements, mais que dans ma vie de tous les jours, ça n'affecte pas les enseignements que je reçois, le fait que je sois proche de lui. Aujourd'hui, nous pouvons dire non, je ne veux plus être cet homme qui vit seulement les dimanches pour lui. Mais je crois aussi que l'Église doit être là pour accompagner chacun d'entre nous. Et avec le groupe de travail, on va travailler aussi sur un projet d'Église, sur une vision qu'on voudra porter tous ensemble. Et demain, d'ailleurs, je vais discuter avec un pasteur pour qu'il m'explique un projet qu'ils sont en train de faire dans leur Église pour avoir, par rapport à une vision qu'ils ont dans leur Église. Et bientôt aussi, tous, vous allez être sollicités d'ici l'Assemblée Générale pour qu'on puisse travailler ensemble. On veut être des chrétiens qui vivent à fond dans la vie de tous les jours pour Christ. L'œuvre du Christ. Et en Église, on va travailler pour cela. Pour que chacun, qui que nous soyons, où nous nous trouvons, nous trouvions cette place dans l'Église où Dieu nous a placés et que notre vie entière puisse rayonner de l'amour du Christ.